Europe 1, en balade avec Ludivine Sagnier. Frédéric Taddeï.
C'est la comédienne Ludivine Sagnier qui nous emmène en balade aujourd'hui, révélée par les films de François Ozon, 8 femmes et Swimming Pool, starisée par Claude Miller dans La Petite Lily, magnifiée par les chansons d'amour de Christophe Honoré. Elle est à l'affiche de La Vérité avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche. Ludivine Sagnier nous a donné rendez-vous au nouveau-né.
Frédéric Taddeï, en balade avec Ludivine Sagnier sur Europe 1.
Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Ludivine.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente Valério.
Bonjour Valério.
Enchanté.
On est chez vous.
Oui, c'est ça.
Au nouveau-né. Pourquoi vous l'avez appelé au nouveau-né?
C'est pas nous qu'on l'a appelé au nouveau-né. Nous, on a repris cet endroit. C'était une cave. C'était un des caves à vin naturel le plus ancien de Paris. Et du coup, lorsqu'on l'a repris, on a décidé de laisser le nom, parce que c'était dommage d'effacer une histoire longue ces
années. Et puis un si beau jeu de mots. Un si beau jeu de mots, puisque c'est au nouveau-né N-E-Z.
Voilà, et en fait, donc, c'était une cave avant. Moi, je venais chercher mon vin régulièrement par ici. Et en fait, Valério travaillait dans un petit restaurant un peu plus loin qui faisait du sans gluten. Et pendant toute ma grossesse, afin de bien me nourrir, je venais manger chez lui.
Quelle grossesse ?
La dernière, il y a 6 ans. Voilà. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça et il m'a fait part de ses ambitions de monter un restaurant. Et donc voilà, je le soutiens parce que c'est délicieux.
Oui, parce qu'il y a ça fait restaurant aussi. Hein.
Oui, parce que à la base, c'était que cave et nous, on a créé le côté restaurant qui est un bistrot italien.
J'avais envie de vous dire joyeux Noël. Je vous ai vu inaugurer les illuminations des Champs-Élysées avec la maire de Paris, Anne Hidalgo.
Oui.
Les 400 platanes se sont illuminés d'un coup,
voilà,
grâce à vous.
Il a suffi que j'appuie sur un bouton et Paris s'est illuminé. J'ai une sensation vertigineuse de pouvoir à ce moment-là.
J'imagine que vous aimez Noël, non ?
Bon, oui.
Bah là, il y avait un peu de la magie de Noël, celle que les Américains, tellement, elle était là.
Bien sûr, bien sûr. La magie de Noël que les Américains aiment, voilà.
Oui, c'est quand tout s'illumine, quand tout à coup, on retombe un peu dans l'esprit d'enfance.
Ouais.
Non.
Je suis pas.
Ça a l'air dubitatif.
Non. Je suis pas une fervente défenseuse de la magie de Noël. Après, j'aime bien les lumières déclinées sur les végétaux. C'est un truc qui me plaît visuellement. Mais de là en faire un concept, ça m'intéresse moins. Pas tant que ça.
Et en Italie, je me souviens que pour le Nouvel An, les femmes mettent des culottes rouges.
Rouge, oui. Mais pas que les femmes, en fait.
Pas que les femmes,
non. Mais tous. D'Avel.
Oui, on met tous
des sous-vêtements rouges.
Exactement. Oui. Ouais. Oui.
Vous saviez pas ça?
Non.
Ça amène bonne chance, apparemment. Ou comme chez nous, une autre chose qui amène bonne chance, c'est de manger les lentilles.
Ah bon?
Parce que ça apporte de l'argent. Mais moi, je devrais être riche à ce moment-là, parce que j'ai mangé des lentilles tous les ans. Mais...
Frédéric Taddeï se balade avec Ludivine Sagnier sur Europe 1.
C'est votre quartier ici, Ludivine Sagnier?
Oui, absolument. C'est mon quartier, le 11e.
Et vous aviez acheté un appartement, je crois, avec vos premiers cachets.
Oui,
dans
c'est
ce quartier-là.
Vrai. Oui, c'est vrai. C'est pas celui que j'occupe maintenant, mais c'est vrai, j'ai acheté un appartement à 22 ans, peut-être.
Oui,
23
c'est ça.
Ans.
Vous étiez endetté ou vous aviez déjà tout l'argent?
Non, je me suis endetté. Oh là là.
Vous avez fini de rembourser, là, maintenant?
Le premier appartement, oui. En effet. Oui, c'était Gérard Depardieu qui m'avait dit, j'avais tourné avec lui vers 19-20 ans, il m'avait dit, la première chose que tu dois faire quand tu as un peu d'argent de côté, c'est d'acheter un appartement. Ne compte pas sur la retraite. Voilà. Aujourd'hui encore...
Vous n'avez pas changé d'avis, il ne faut pas compter sur ça.
J'attends pas sur Monsieur Philippe pour ma retraite, je préfère attendre sur la pierre parisienne.
Comme les Français, tous les Français préfèrent investir dans la pierre. Vous auriez pu investir dans les entreprises, acheter des actions.
Je ne suis pas dans le genre fervente capitaliste non plus. Magie Noël, capitalisme, ce n'est pas mon truc.
Toujours révolutionnaire. On est dans un quartier révolutionnaire d'ailleurs. Hein. Vous ne l'avez pas choisi par hasard.
C'est vrai. Non, moi, ce que j'adore dans ce quartier, c'est qu'il est extrêmement mixte. C'est-à-dire que rien que dans cette portion de rue, en 100 mètres.
On est rue Saint-Maur, hein, on est au 104 voilà. rue Saint-Maur.
On est rue Saint-Maur, il y a un magasin italien, un bar à chicha, un magasin africain, un restaurant indien, restaurant japonais, restaurant asiatique, il y en a partout. Et en fait, j'aime bien quand les différentes cultures s'entrechoquent. Il y a aussi au bout de la rue, il y a une école de juifs orthodoxes qui est quasiment attenante à la mosquée, qui est aussi qualifiée d'un peu radicale. Donc en fait, vraiment, toutes les croyances, tous les rites se mélangent et cohabitent assez bien, en fait. En fait, c'est pas tellement un quartier communautariste, même si Belleville, ça l'est un peu plus. Là, Saint-Maur, ça redescend. Et donc, toutes les nationalités côtoient les bobos. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la rue, elle commence place Voltaire à la mairie du 11e. Elle est plutôt bourgeoise, on traverse on passe vers le Square Gardette, etc. On va passer vers le Servant, le restaurant que je vais vous montrer. Et donc c'est un peu bourgeois, et en fait, plus on s'enfonce dans la rue, plus on va vers l'hôpital Saint-Louis, plus la sécurité financière se dégrade.
C'est le Paris populaire.
Voilà, et la population se bigarre. Je ne sais pas si
oui, on peut dire comme ça, en tout cas on a compris.
Voilà.
Je crois qu'il y a plus de restaurants étrangers que de restaurants français à Paris. Vous confirmez, vous ne les avez pas comptés?
Il y a beaucoup d'Italiens en tout cas. après, si,
mais moins pas... que de Chinois ou de Vietnamiens.
Oui, mais j'ai effectivement, quand il y a un ami italien ou un proche qui arrive sur Paris, j'ai du mal à lui conseiller où aller manger français, parce que bon, il y en a pas autant finalement. Et du coup, je connais 4-5 endroits et c'est les seuls que je conseille.
On fait une pause et on se retrouve avec Ludivine Sagné au nouveau-né.
Frédéric Taddeï en balade avec Ludivine Sagné sur Europe 1.
On est toujours au nouveau-né, 104 rue de Saint-Maur, avec Ludivine Sagné. On s'apprêtait, vous apprêtiez à commander. Vous voulez boire quoi alors?
Bah, y avait un petit verre. Qu'est-ce que tu m'as mis l'autre jour? C'était un petit Bourgogne que...
Eh oui, c'est ça. J'avais conseillé à Kim de le café.
Voilà.
Un quart d'heure, 20 minutes.
J'ai respecté la consigne.
C'est très bien. Je vous propose ça alors.
Oui.
La même plaisir. Chose ou vous l'échangez?
Non, je lui fais confiance. Elle a l'air connaisseuse.
Parfait.
Vous êtes à l'affiche de La Vérité, un film de Kore-eda Hirokazu. Est-ce que je l'ai bien prononcé?
Absolument.
C'est lui qui a eu la Palme d'Or à Cannes l'année dernière. Hein. C'est un film avec Catherine Deneuve dans le rôle d'une star de cinéma trabilaire. Mm-hmm. Elle est interviewée au début du film et le journaliste lui pose une question que je n'avais jamais entendue. Je ne pensais pas qu'une telle question était imaginable. C'est « Quelle actrice vous a transmis le plus fortement son ADN ?»
Oui.
Qu'est-ce que vous répondriez, vous, à une question pareille? Est-ce qu'on se transmet l'ADN entre actrices?
Je ne suis pas sûre. Hein. Je pense qu'on tente à l'aspirer de certaines actrices qui nous inspirent.
Vous avez fait déjà 3-4 films avec Deneuve, non?
Deneuve, c'était le troisième.
Ouais.
Si je pouvais avoir ne serait-ce qu'un minuscule pourcentage d'ADN en commun avec Catherine, je serais la plus heureuse des actrices. Mais c'est vrai qu'il y a, au-delà de l'ADN, de l'éventuelle ressemblance, ou en tout cas comparaison, il y a un rapport filial en fait, qui a été imprégné par le premier film qu'on a fait ensemble, qui était 8 femmes.
Vous étiez la plus jeune?
J'étais la plus jeune, j'étais sa fille, je m'appelais Catherine. Et évidemment, comme c'est un film qui était fondateur dans ma carrière, dans mon rapport au cinéma, j'ai identifié Catherine comme une maman de cinéma, comme j'ai pu le faire avec des réalisateurs ou des acteurs.
Comme elle l'avait fait avec Daniel Darieux, qui avait joué à plusieurs reprises sa mère, d'ailleurs.
Voilà, et c'est vrai que j'étais très impressionnée par leur rapport à elle. Et je suis peut-être pas si proche de Catherine, mais en tout cas, il y a ce lien filial qui nous confère beaucoup de tendresse.
Europe 1, en balade avec Ludivine Sagné. Frédéric Taddeï.
Alors elle joue dans ce film une vraie peau de vache, hein, la star égoïste à qui tout est dû, jalouse des plus jeunes, une vraie langue de vipère en plus, qui débine ses collègues, y compris dans les interviews. Il en existe des actrices comme ça ou c'est très 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 caricatural?
J'ai rarement vu des actrices à ce niveau d'accomplissement artistique se préoccuper vraiment des autres avec autant de manières, quoi. Je dirais que s'il fallait comparer le personnage de Catherine dans la vie, je verrais plutôt des acteurs, moi.
Ah oui, il y en a des comme ça.
Ben, par exemple, je pense qu'un Gérard Depardieu peut tout d'un coup s'amuser à aller critiquer son voisin sur un. Sur, à,
oui, juste fait, pour, il n'a pas peur. Oui,
voilà, juste pour le plaisir de la blague, etc. Il peut les descendre, mais je ne suis pas certaine que les actrices soient plus langues de pute que les acteurs. Mais en y réfléchissant.
Dans le film, on comprend que quand elle était plus jeune, elle a volé le rôle premier à une de ses amies en couchant avec le réalisateur. C'est possible, ça, ça existe ?
Ah oui, ça doit exister, oui. Ah ouais. Bien sûr. Alors,
Elle cherche un nom.
Non, mais voilà, je cherche un truc. Moi, j'ai franchement peu couché avec des réalisateurs et surtout pas pour avoir des rôles. Donc, c'est pas un cas qui m'est proche. Mais ça doit, bien sûr, il doit y avoir des trahisons, des trafics d'influence, comme partout, non ?
Et de ce fait, on l'accuse, en tout cas sa fille, jouée par Juliette Binoche, l'accuse d'avoir fait la carrière d'une autre. Parce que si elle ne lui avait pas volé ce rôle, elle n'aurait peut-être pas fait la carrière qu'elle a faite. Mais en même temps, est-ce qu'on peut faire la carrière d'une autre ? Oui, on peut lui prendre un rôle, mais on ne fera pas la carrière d'une autre.
Non, parce qu'au final, la carrière, c'est ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on a failli faire. Oui. Moi, je suis toujours énervée par les gens qui disent « Tiens, j'avais fait le casting, tiens, j'ai failli jouer là-dedans. » Mais en fait, à partir du moment où il y a le mot « faillir », en fait, il n'y a plus aucune valeur.
Et puis, une autre l'aurait joué, ça aurait été totalement différent.
Bien sûr, bien sûr. Et du coup, non, on ne fait pas la carrière d'une autre, on fait la carrière qui se présente à soi, la carrière qu'on choisit, et c'est un mélange de libre-arbitre et de hasard.
Néanmoins, on est en rivalité avec d'autres qui ont le même âge, à peu près la même corpulence, on va dire. Et parfois, c'est l'une qui a le rôle, parfois c'est l'autre. Et j'imagine qu'on se dit, ah, celui-là, j'aurais bien aimé le faire, ou j'aurais fait mieux qu'elle.
Ça m'arrive rarement. Je ne dis pas que ça m'est jamais arrivé, mais ça m'arrive rarement. Mais en fait, c'est pas... En fait, on ne peut pas être vraiment en rivalité sur le désir de quelqu'un. Il est là ou il n'est pas là. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un de plaire plus que soi-même. Ça, rationnellement, ce n'est pas...
Mais on peut se dire, ce rôle était plus pour moi que pour elle. Dommage.
Je lui aurais donné beaucoup, ouais. Après, moi, je ne suis pas quelqu'un qui regrette. J'ai pour habitude de rester impérativement du bon côté de la route. Parce que je trouve que la vie est déjà pas facile. Si en plus il faut l'avoir du mauvais côté, c'est dommage.
Eh bien, nous allons partir en balade du bon côté de la route. Ludivine Sagné, merci Valerio.
Merci à vous.
On y va ?
Allez, c'est parti.
Frédéric Taddeï, en balade avec Ludivine Sagné sur Europe 1.
Nous sommes avec Ludivine Sagné dans la rue Saint-Maur. On se dirige vers la rue Oberkampf, qui est une rue très branché depuis les années 90.
Est-ce que vous savez qui est Oberkampf ?
Non.
Alors Oberkampf, c'est un manufacturier qui a créé la toile de Jouy.
Ah !
Voilà. Et en fait, il se trouve que sa fille, Émilie Oberkampf, dite plus tard Émilie Mallet, est une des pionnières de l'école maternelle en France.
Elle s'est battue... En tant qu'élève ou en tant qu'institutrice ?
En tant qu'institutrice, elle s'est battue en fait pour créer des gardes d'enfants, parce que l'école ne commençait que bien plus tard. Et en fait, c'est elle qui a imposé le...
Mais est-ce qu'elle a un nom de rue ? Est-ce qu'elle a donné son nom à une rue, elle ?
C'est dommage. Non, enfin, Frédéric, évidemment que non. Depuis quand les femmes ont des noms de rue ? C'est quand même...
Ça va commencer.
On est sur la bonne voie.
Attends, la jeune génération, les femmes sont plus diplômées que les hommes, pour la première fois dans l'histoire.
C'est vrai.
Et pas seulement en France, partout, aux États-Unis, en Allemagne, en Iran même.
Mais vous savez qu'il a été prouvé qu'il y a plus de matière grise dans le corps des femmes que chez les hommes.
Oui, mais il est prouvé aussi que c'est pas une question de poids. Vous avez débuté très jeune, vous. Oui. Les maris, les femmes, les amants de Pascal Thomas, vous aviez quoi, 8 ans ?
Oui, j'avais 8-9 ans.
Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu, vous aviez 10 ans.
Oui, c'est vrai.
Vous avez montré récemment sur Instagram une photo de vous enfant, d'ailleurs, avec Gérard Depardieu.
Absolument, j'ai retrouvé ça dans une petite boîte. Et c'est une photo que mon papa a prise sur le tournage, c'était en Hongrie.
Mais c'est vos parents qui vous obligeaient à travailler à l'époque ?
Non.
Parce que je vous rappelle que les enfants ne sont pas censés travailler.
Non, pas du tout. En fait, je voulais échapper à la proposition de musique classique que mes parents m'avaient faite. Mon père vient d'une famille de musiciens classiques où il faut travailler dur. Or, moi, le solfège, c'était quelque chose qui était absolument étranger pour moi. Je ne comprenais rien. J'étais gauchère. Je ne comprenais rien à la lecture des notes. Je n'étais pas du tout synchronisée. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire du théâtre. C'est beaucoup plus facile, je sais déjà lire. J'aurais pas besoin d'être douée pour faire du théâtre, il suffit de lire et d'être un peu convaincant.
Mais pour les maris, les femmes, les amants, il paraît que vous aviez juste accompagné votre grande sœur à un casting.
Oui.
Et finalement, c'est vous qui avez été choisie.
Absolument.
Est-ce que vous n'avez pas couché avec le réalisateur à l'époque? Est-ce que vous ne lui avez pas volé sa carrière?
Alors, à la première question, je vais vous dire, vous l'auriez su, on est en 2019, si j'avais dû coucher avec un réalisateur à 8 ans, les médias auraient été les premiers informés.
Oui, ou en tout cas, il se serait fait dénoncer depuis.
Oui, certainement. En tout cas, et par rapport à la deuxième question, non, je ne pense pas avoir volé la carrière de ma sœur, parce que je pense que il suffit pas d'un hasard, il suffit pas forcément d'une rencontre, il faut un état d'esprit.
Non, mais je plaisantais, non, je faisais allusion.
Mais il y a peut-être des gens qui ne plaisantent pas là-dessus. Acteur, c'est pas juste un coup de peau, hein. Je crois pas. Un coup de peau, ça aide, mais c'est une disposition. C'est pas simplement dû au talent. C'est une...
Ça vous a plu tout de suite, le cinéma, j'entends?
Ça m'a plu parce que au début, pour moi, c'était l'expérience d'être, immergé dans un monde d'adultes. Et tout d'un coup, d'être valorisé en tant qu'enfant dans un monde d'adultes, ça me plaisait.
Vous aviez une voix très craquante, que vous avez gardée longtemps d'ailleurs.
Ouais.
Je me souviens la première fois que je vous ai rencontré, j'ai jamais oublié votre voix. Vous étiez en train de jouer au baby-foot avec d'autres actrices, je vous connaissais pas. Vous étiez la plus jeune, je crois qu'il y avait Emily Deken. Et,
ah oui,
et vous vouliez partir en boîte le soir même pour Bruxelles. Et j'ai entendu votre petite voix de Mickey à l'époque me dire « Hey Fred, tu nous files ta caisse ».
C'est pas vrai. Je me souviens pas.
Et je me suis dit « Mais elle a même pas l'âge de conduire ».
C'est vrai, je vous ai dit ça?
Oui, oui. Mais vous aviez l'âge de conduire. Après, je me suis rendu compte que vous étiez ouais, plus âgé que vous en aviez
l'air. J'ai toujours été plus jeune, ouais, c'est vrai.
Adolescente, vous faisiez du doublage. Vous avez doublé Nathalie Portman dans Léon de Luc Besson. Vous avez doublé, pas seulement dans Léon d'ailleurs, dans Beautiful Girls aussi.
Oui,
Scarlett Johansson, c'était dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Est-ce que c'est Besson qui vous dirigeait quand,
oui, absolument, ouais, c'était Besson qui me dirigeait.
Parce que sinon, quand c'est L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, le
c'était
metteur
pas
en
Robert Redford, malheureusement.
Voilà.
Non, mais j'étais dirigée par Besson qui faisait tous ses. Qui accomplissait ses versions françaises de manière extrêmement minutieuse. Donc c'était 3 semaines d'enregistrement en studio, alors que normalement c'est 1 semaine pour un rôle principal. Donc c'est beaucoup de travail. Anneke aussi, mais beaucoup de soins. J'ai travaillé avec Anneke aussi
en doublage synchro.
Oui, il met beaucoup beaucoup de soins à ses versions françaises. Elles sont impeccables. Et d'ailleurs c'est le même directeur de plateau, Hervé Ikovic, pour les deux réalisateurs.
Il y a des réalisateurs qui ont beaucoup compté pour vous, Livine Sagnier. Il y a François Ozon, évidemment, qui vous a révélé. Il y a Claude Miller, avec La Petite Lily et Un Secret. Oui. Puis il y a Christophe Honoré, avec qui vous avez tourné Les Chansons d'Amour et Les Bien-Aimés.
Oui.
J'aimerais bien qu'on écoute Je n'aime que toi, la chanson phare
des Chansons d'Amour.
Des Chansons d'Amour, une chanson d'Alex Baupin, que vous interprétiez avec Louis Garrel et Clotilde M.
Europe 1, 11h30, en balade avec Ludivine Sagnier. Frédéric Taddeï.
Petit salaud, ton jeu est clair. Tu veux tout sans rancune. Le beurre, le cul de la crémière. Deux pour le prix d'une.
Petite garce, que tu es vulgaire. Que c'est laid dans ta bouche. Que cette jalousie m'indiffère. Vois comme tu te couches.
Je suis le pont sur la rivière. Qui va de toi à toi. Traversez-moi la belle affaire. Embrassez-vous sur moi.
Je n'aime que toi. Je n'aime que toi.
Petit salaud, petit pervers. Où as-tu mis les doigts? D'où viennent ces odeurs étrangères? Sûrement pas de moi.
Petite garce, va donc te faire. Tu n'es pas moins farouche. Non, tu n'es pas moins adultère. Vois comme elle te touche.
Je suis le pont sur la rivière. Qui va de toi à toi. Me passer dessus la bonne affaire. M'enjamber, pourquoi pas. Je n'aime que toi, toi. Toi, 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 toi. Je n'aime que toi.
Petit salaud, qui tu préfères? Qui tu veux, fais ton choix. Le bon vieux temps, la nouvelle ère. C'est elle ou moi?
petite garce qui je préfère. Tu le sais mieux que moi. Je préfère que tu sois légère à la guerre à trois.
Je suis le pont sur la rivière, vos guerres me lassent de bois. Piétinez-moi, que puis-je faire? Je ne bouge pas de là, 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 là.
Je n'aime que toi.
Là, 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 là.
Je n'aime que toi.
Là, 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 là.
Je n'aime que toi.
Là, 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 là.
Je n'aime que toi.
C'était « Je n'aime que toi » interprété par Louis Garrel, Clotilde M et Ludivine Sagnier dans « Les chansons d'amour », le film de Christophe Honoré. C'était en 2007. J'ai l'impression que c'est à partir de ce film et de cette chanson, peut-être, que le triolisme est devenu une obsession dans le cinéma français. C'est remarqué, ça? Tout le temps de filles, un garçon, deux garçons, une fille.
Pourtant, ce n'est pas Christophe Honoré qui l'a inventé.
Non, non, il ne l'a pas inventé. Mais enfin, avant, ça, on en voyait très peu souvent.
C'est vrai qu'il a sublimé, ses sorties du fantasme pornographique pour être quelque chose de, oui, de libéré, de poétique, de simple finalement. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est énorme. Si ce film a pu provoquer ça, c'est déjà.
J'ai beaucoup. Dit dans le cinéma français. Sinon, dans la vie, je pense que personne vous avait attendu.
C'est sûr.
On est devant votre fleuriste, l'arrosoir. On va y entrer.
On va y entrer avec grand plaisir.
Bonjour.
Alors, je vous présente Alain Bousquet. Ah, d'accord. Il y a deux poètes ici. Il y a Alain et Christine.
Alors, c'est l'arrosoir, ça s'appelle.
Bonjour.
Oui, c'est le fleuriste le plus reconnu du quartier. Ça fait... depuis longtemps qu'ils sont là, je pense une vingtaine d'années. Ils avaient deux magasins avant, ils n'en ont plus qu'un. Mais il est toujours aussi dense. Et en fait, à chaque fois que j'entre dans ce magasin, j'ai l'impression de prendre une grande bouffée de poésie.
Ah oui.
Comme dans un film de Kore-eda. C'est-à-dire que les couleurs sont ajoutées avec discrétion, les odeurs aussi. Il y a beaucoup de douceur et de poésie.
Bonjour.
Bonjour Christine.
Christine. Que se passe-t-il? Qui êtes-vous?
Alors, vous me reconnaissez, Christine?
Oh, Ludivine, ma petite Ludivine!
On est
en train de déambuler dans le quartier. Alors, l'outil de travail de Christine, c'est la fleur. La fleur dans tous ses états.
Dans tous ses états.
Voilà, dans toutes ses couleurs. Et en fait, Christine, depuis une quinzaine d'années, elle est présente à tous les événements importants de ma vie. Elle connaît mes choix. Parfois, elle est un peu tendue. Quand c'est un...
Je confirme.
Quand c'est
un bouquet important, il y a un vrai... À chaque fois, il y a un vrai enjeu, quoi.
Et c'est vous qui offrez le bouquet, alors.
Ou quand on me l'offre. Mais en tout cas, il y a une... On se concerte, on réfléchit. Il y a limite un mood board avant. Enfin, c'est une création collective à chaque fois. Ouais. Si elle a quand même le... Elle a le final cut, quoi, si je peux dire.
Pourquoi les femmes et les fleurs sont-elles liées à ce point depuis aussi longtemps? Parce que déjà pendant l'Antiquité, les déclarations d'amour et les demandes en mariage se faisaient avec des fleurs. Pourquoi on offre des fleurs aux femmes et à moi, je suis obligé de me les acheter?
Moi, j'aime bien offrir des fleurs aux hommes aussi.
Oh ah non, oui, c'est un peu passé, ça.
C'est un peu passé.
Je dirais, oui.
Alors,
tant mieux.
Jenner n'est pas de cet avis-là. Jenner, c'est le chien que vous entendez.
Alors, c'est quoi vos fleurs préférées, Ludivine Sagnier?
Alors, mes fleurs préférées, ça dépend de la saison. Moi, vous savez, je suis les saisons, donc ça peut être...
C'est la saison de quoi,
là? Là, les œillets, c'est pas mal. Les renoncules, par exemple.
Elle vous a soufflé, les renoncules. On n'aime pas assez les renoncules.
Les renoncules, mais oui, franchement, les renoncules, la fleur de saison.
Ouais.
N'est-ce pas beau? Et en plus, c'est une fleur toute serrée au départ qui devient d'une générosité incroyable après. C'est ce que vous aimez, Ludivine.
C'est vrai, c'est vrai.
Oh, je vais vous le répéter.
Mais les fleurs, c'est un peu comme les poissons. Vous savez, il y en a plein, il y en a des milliers des poissons et on mange toujours les 20 mêmes. Et j'ai l'impression que les fleurs, c'est un peu le même problème.
Est-ce que c'est un problème?
Bah oui. En tout cas, pour les poissons, ceux qui sont en surpêche, c'est un problème.
Et là, vous croyez qu'il y a des fleurs qui sont en danger de disparition? Je suis pas sûre.
De toute façon, c'est vrai qu'il y a de la mode, il y a la mode aussi, un phénomène de mode dans les fleurs aussi. Donc ça évolue.
C'est quoi la mode en ce moment?
Une fleur qui était très à la mode hier.
passe de saison.
Là, voilà. En ce moment, c'est la mode de quoi?
On se conforme à la saison, là. C'est quand même la renoncule. Hein. Ouais. Mais et puis, là, on fait un revival avec le sec. Moi, je déteste ce nouveau truc.
C'est quoi le sec? C'est les fleurs séchées.
Les fleurs séchées. Ouais. Ça, pour moi, c'était un truc has-been. Et là, on est à fond dedans, là. Ah ouais. C'est comme quoi pour toi? C'est comme d'empailler les animaux? Mais ça vit pas, ça n'évolue pas. C'est rigide. Il n'y a aucune évolution. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure pour la renoncule. C'est ce qui est bien, c'est tout serré et ça devient énorme. Là, c'est sec.
Ouais, ça restera sec. Mais au moins, ça reste. Sec. Voilà. C'est le côté figé qu'on aime bien. Parce que le problème des fleurs, c'est qu'elles fanent.
Mais oui, mais c'est pas un problème. Un bon gâteau!
Oui, ben c'est pas un problème.
Un bon vin.
C'est pas un problème pour la fleuriste. C'est parce qu'on revient.
C'est l'instant aussi. C'est un moment court, c'est super. C'est important aussi. Ce qui dure, c'est pas forcément bien. Moi, je suis pas d'accord.
Ouais. Ce que vous en pensez, Ludivine Sagnier?
Je suis complètement d'accord avec Christine. Moi, je suis pour la vie au présent.
Ouais, c'est voilà. Bien la première fois que j'entends des femmes me dire que c'est formidable ce qui ne dure pas. Normalement, vous dites toujours qu'il faut que ça dure pour que ce soit bien.
Ah mon Dieu. Non, mais moi, je veux bien être une renoncule qui s'ouvre large et puis après qui se fane et qui finit dans un bouquet de fleurs séchées. Moi, ça m'irait très bien.
Vive l'éphémère. Eh bien, on va continuer notre balade avec Ludivine Sagnier. On va quitter l'arrosoir, 80 rue Oberkampf, et continuer cette promenade dans votre quartier. Hein. Un quartier révolutionnaire, je ne le dirai pas assez.
Viva la révolution!
Frédéric Taddeï, en balade avec Ludivine Sagnier sur Europe 1.
Nous voilà repartis dans le quartier de Ludivine Sagnier, dans le Paris révolutionnaire, la rue Saint-Maur. Et célèbre pour les affrontements qui ont eu lieu pendant la révolution de 1848, la révolution des barricades. Il y avait plein de barricades, rue Saint-Maur. Ça a été assez sanglant. Et pareil, pendant la Commune, c'est une jeune fille de la barricade de la rue Saint-Maur à qui Jean-Baptiste Clément a dédié Le Temps des Cerises.
Alors,
une chanson
là,
qui doit vous plaire.
Oui, mais alors vous m'apprenez.
Il y avait des daguerreotypes de l'époque. On voit toutes les barricades de la rue Saint-Maur. Ouais.
Alors, malheureusement, je n'y étais pas. Moi, l'image que j'avais de ce quartier quand j'étais petite, c'était un quartier quand même assez mal famé. Là, on n'est clairement pas là-dedans. On est quand même comme dans un quartier très accueillant, recherché. Maintenant, il y a carrément des groupes de touristes qui viennent voir le street art, qui viennent visiter le street art avec un guide. Moi, c'était mon Eldorado quand j'avais 18 ans, c'était d'aller au Citéa. Je venais de banlieue et en fait le Citéa, c'est un peu plus haut, rue Oberkampf, maintenant il s'appelle plus comme ça. Et il y avait toutes sortes de soirées hip-hop, dancehall et tout ça. Et donc je venais de Sèvres, je faisais toute la ligne 9 jusqu'à Oberkampf. Je crois que c'était 24 stations pour aller m'encanailler. Et voilà, et un jour j'ai réalisé mon rêve d'habiter dans ce quartier, d'être au cœur de cette agitation.
Mais vous en profitez? Vous êtes tous les soirs dehors? Vous êtes dans les bars?
Ben non, pas du tout. Malheureusement pas.
Eh oui.
J'ai passé l'âge. Le soir, la rue se transforme et ça devient vraiment la rue de la soif. Et donc, il y a beaucoup de gamins qui viennent boire des shots de vodka à peu de frais, qui finissent souvent la tête dans le caniveau. Donc c'est pas c'est pas les ambiances que je recherche, on va dire.
Et puis vous êtes devenue mère de famille nombreuse, vous avez trois enfants, trois filles,
ouais, j'ai la
zéro
carte.
Garçon, c'est un choix.
On choisit pas tout, Frédéric, enfin.
Je croyais que vous choisissiez tout.
Mais d'abord trois enfants, oui, c'est un choix, et bien évidemment. Maintenant le sexe de mes enfants, il est arrivé comme par magie, et j'avoue que je suis pas peu fière de ma petite équipe de filles.
Elles se ressemblent.
Les deux dernières se ressemblent parce qu'elles ont le même papa. Et sinon, les trois se ressemblent dans l'appréciation de la vie, je pense.
Il y a une chanson qu'on entendait absolument dans tous les bars de ce quartier dans les années 90. C'était History Repeating.
Okay.
Chanson de Shirley Bassey avec les pop à l'oreille. Et ici, quand vous étiez ce que vous appelez la rue de la soif à l'époque, vous passiez de bar en bar et il y avait toujours la même chanson.
C'est vrai, ah là là, mais ça me rappelle des souvenirs cette chanson. C'est vrai que c'était la fin des années 90.
Ouais, exactement, 97.
Mais je crois que je l'avais en mini-disque, moi, carrément.
Et ben je vous la donne, écoutez.
Yes.
what it's about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good, some is bad, and the joke is rather sad, that it's all just a little bit of history repeating.
C'était History Repeating, l'histoire se répète, un morceau des Propeller Heads interprété à leur demande par Shirley Bassey. Vous avez organisé pendant 3 ans, je crois, un festival de cinéma à la prison de Fleury-Mérogis.
Oui, c'est vrai.
Et qu'est-ce que vous avez... Enfin, je vous allais dire, c'est plutôt pour leur rapporter à eux, mais qu'est-ce que ça vous a apporté à vous ?
Qu'est-ce que ça m'a apporté à moi ? Un grand sentiment d'impuissance.
Aller faire évader ou
non,
même symboliquement
à leur apporter quelque chose, justement. J'avais la prétention de pouvoir leur amener un peu de rêve le temps des 15 jours de festival et d'une ouverture sur une possible réinsertion dans les métiers du cinéma, parce que c'est comme ça que j'accès le festival. Donc je faisais venir des invités qui travaillaient dans le cinéma, mais pas avec des postes artistiques importants. Enfin, c'était pas des producteurs ou des acteurs. Je faisais venir des gens de la sécurité, des habilleuses, des électriciens, des gens qui étaient à des postes qu'on peut briguer, mais tout en ayant un casier judiciaire un peu sale, quoi. Donc je proposais ça. Et puis après, j'ai axé plus sur une réflexion thématique. Donc, par exemple, on avait projeté Omar Mathué de Roche Dizem et j'avais invité Maître Vergès à venir parler de justice et de présomption d'innocence, etc. etc.
Cela dit, Jacques Vergès devait aller en prison assez régulièrement pour visiter ses clients. C'était pas une nouveauté pour lui.
Non, mais en tout cas, c'était quand même un événement pour les détenus.
De pouvoir discuter avec lui, oui. J'imagine.
Bien sûr, et je me souviens qu'à la fin de la session, il avait les poches remplies de numéros de téléphone, en fait, parce que les mecs disaient « Eh, s'il vous plaît, monsieur Vergès, mon avocat, il est pourri, je vous donne mon numéro, vous venez, vous m'aidez, tout ça. » Bon, il était déjà un peu fatigué à cette époque-là, il manquait d'énergie, mais c'était quand même intéressant de l'avoir auprès de nous. Et puis, oui, sensation d'impuissance, parce que j'avais l'impression d'abattre beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Et puis, Ouais, j'arrivais pas à voir le projet porter ses fruits. Alors oui, ça a donné un peu d'espoir, un peu de confiance à certaines personnes.
Vous en avez revu depuis ?
Bah, en fait, une fois, j'étais dans une tempête de neige. J'étais à Montfermeil. Je rejoignais mon mari et j'étais coincée dans la neige. Et en fait, il y avait des riverains qui aidaient les voitures, qui mettaient du sel et qui réorientaient les voitures, etc. Et moi, j'étais avec mon bébé à l'arrière, coincée. Je savais plus où j'étais. Mon GPS était en panne, etc. Et en fait, il y a un mec qui était avec une pelle et du sable. Et il me fait signe d'ouvrir la voiture. Et puis, il dit à son copain, « Elle, tu vas l'amener jusqu'à la grande route. Tu la pousses jusqu'à la grande route. » Et je dis, mais enfin...
Il vient pousser carrément.
Ouais. Il donne des ordres comme ça et il dit, « Elle, tu la pousses. » Et je dis, « Mais enfin, pourquoi vous faites ça ?» Et il dit, « Bah parce que je t'ai vu à Fleury-Mérogis. » Je me suis dit, bon, bah voilà. 3 ans de travail, mais au moins, j'étais sauvée de la tempête de neige.
Il s'était réinséré, visiblement.
Oui, c'était un ancien détenu.
Frédéric Taddeï se balade avec Ludivine Sagnier sur Europe 1.
Votre maman s'occupait de réinsertion des SDF, elle.
Elle a fait la réinsertion des SDF et elle avait des... Elle était, comment dire... Elle faisait du soutien épistolaire aux détenus.
Elle leur écrivait.
Oui, pendant des années. Et oui. Maintenant, elle travaille avec les Syriens. Elle est plus sur l'apprentissage du langage.
Et vous avez arrêté, vous ?
J'ai arrêté quoi ?
Je ne sais pas, la réinsertion, l'école humanitaire.
La réinsertion, je suis toujours, je parraine plusieurs petites filles, l'éducation de plusieurs petites filles. Je participe régulièrement à des maraudes. Et puis j'aime bien, en fait...
C'est quoi les maraudes ?
Les maraudes, c'est quand on fait la collecte de vêtements pour les redistribuer. Donc ça, il y en a beaucoup dans le quartier. J'aime bien redonner mes affaires. Et je trouve que la solidarité, l'esprit de solidarité, c'est pas forcément quelque chose qui se crie sur les toits, c'est plus quelque chose qui se vit au quotidien. C'est comment aujourd'hui je peux aider mon prochain facilement, en fait. Je vois quelqu'un qui a froid, je monte chez moi, je vais prendre une couverture qui traîne et je vais lui donner. C'est pas juste donner de l'argent, signer des pétitions, etc. Je pense que c'est aussi une mentalité... qu'il faut avoir face à soi-même plutôt que face aux autres.
On se retrouve dans un instant avec Ludivine Sagnier. Nous sommes rue Saint-Ambroise, on tourne dans la rue du Général Guilhem, toujours dans le quartier de Ludivine Sagnier. Au cinéma, vous avez été... Vous avez joué l'amoureuse de Benoît Magimel, de Patrick Bruel, de Louis Garrel, de Nicolas Duvauchel. Quand est-ce que vous faites un film avec Gaspard Ulliel ?
Je ne sais pas.
Vous avez même fait avec Jean-Pierre Marielle.
C'est vrai, vous en avez.
Vous avez enregistré en CD des contes pour enfants.
Absolument. Alors, Gaspard Ulliel, si tu m'entends... c'est bizarre ce nombre d'acteurs dont les noms terminent en L. Hein. Je ne sais pas.
C'est peut-être un truc de génération. Regardez, la dernière élection présidentielle, le nombre de candidats dont le nom se termine en O.
C'est vrai. Est-ce qu'il faut y voir une règle mathématique, un signe du destin ? Ça me fait penser que dernièrement, j'ai vu le film de Buñuel qui s'appelle Elle. Alors en français,
L-E-L.
Oui, E-L. Et en français, c'est... je me souviens plus comment ça s'appelle en français. Et c'est extraordinaire, c'est un type qui tombe dans la folie, dans une espèce de passion horrible vis-à-vis de sa femme. C'est un très beau Buñuel.
On vient d'entrer dans le square Maurice Gardette. Un très joli square, rectangulaire, avec des beaux immeubles blancs qui l'entourent. Ici se dressait autrefois l'abattoir. L'abattoir de Ménilmontant.
Tiens donc.
Eh oui. Parce qu'avant Napoléon Ier,
il y avait des tueries, on appelait ça comme ça, un peu partout dans Paris, dans le centre de Paris, au milieu des habitations.
Vous voulez dire des pendaisons, des échafauds ?
Non, non, des abattoirs.
Ah, des tueries, d'accord.
C'était des petits abattoirs, on appelait ça des tueries. Et d'un point de vue sanitaire, ça n'était pas bon du tout. Donc Napoléon Ier a décidé la construction de 5 grands abattoirs à l'extérieur de Paris. Et ici, nous étions à l'extérieur de Paris à l'époque.
Ah ouais.
Et puis ça a été détruit à la fin du 19e siècle, sous Napoléon III d'ailleurs. Et on a fait ce très joli square. C'était le moment où justement le préfet Haussmann a fait de Paris une capitale verte avec plein de squares partout.
Absolument. Et on les aime, nos squares. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas plus de palmiers à Paris. Alors qu'ils s'y plaisent très bien.
Il y en a quelques-uns là.
Il y en a quelques-uns ici. Il y en a quelques-uns à la Porte Dorée. Il y en a très peu des palmiers dans Paris. Par contre, le bambou se porte toujours bien.
Donc ici, il y a un kiosque à musique, il y a des jeux pour les enfants.
Il y a des tables de ping-pong.
Vos enfants ont grandi dans ce,
absolument.
Dans ce square.
J'y ai passé de nombreuses heures, effectivement.
Vous êtes fait des copines ?
Non, je ne suis pas très copine de square.
Vous n'êtes pas liante.
Je suis pas liante.
Dans les squares, j'entends.
Non, quand je suis avec mes enfants, je ne cherche pas à créer d'autres contacts, en fait.
Là, quand on en a 3, déjà, on est bien occupé, non ?
Oui, mais parfois, on me le reproche. On me dit qu'à l'école, je ne suis pas assez présente. Mais c'est vrai que je suis plus focalisée sur mes enfants, à ce moment-là. Après, je suis plutôt quelqu'un de...
De plutôt charmant dans la vie.
De plutôt sympathique, en fait.
Europe 1, 11h30, en balade avec Ludivine Sani, Frédéric Tadéhi.
Il fait froid et sec, il y a même du soleil. C'est un vrai temps de Noël, mais à la parisienne.
Ouais, mais c'est bien, non ? On préfère quand c'est froid et sec que froid et humide. Ouais.
La neige, c'est assez joli.
La neige, ça va. La neige, ça vous... Oui, c'est l'illusion. Tout est apaisé. Les sons sont amortis, un sentiment de flottaison. Oui, c'est agréable, la neige.
Vous avez une parka, comme on a les adolescents, pour aller à l'école, vous avez remarqué. Vous avez gardé toujours cet aspect adolescent qui a fait votre succès.
C'est pas... Alors là,
de votre carrière.
C'est vraiment parce que je trouve que les manteaux... Je suis assez frileuse et je trouve que les manteaux féminins... pour déambuler dans Paris, sont pas forcément les plus adéquates.
C'est pas pratique.
Non, j'aime bien être en... Et puis comme j'utilise plein de transports en commun variés, j'aime bien être dans une tenue sportive. Où je puis, par exemple, si je fais une trottinette ou un vélo, ouais. Il faut que je sois alerte. Je peux pas me promener avec un trench en cachemire et des talons de 12.
Non, ce serait bête.
Non, par
il
contre,
vous arrive
si
de mettre
sors...
des talons de 12.
Plutôt 10 en général.
Je me souviens que le premier prix que vous avez reçu, c'était le lutin de la meilleure actrice.
C'est vrai.
Je trouvais ça très mignon comme nom. C'était pour le lutin, c'est ceux qui récompensent les acteurs dans les courts-métrages.
Absolument, mais vous savez que ce prix, il était déterminant pour ma carrière parce que c'est ce soir-là que j'ai rencontré François Ozon. Ouais. Et le lendemain, il m'a appelé pour me proposer Goutte d'eau sur pierre brûlante, qui était une adaptation d'une pièce de Fassbinder.
Dans laquelle vous étiez formidable.
Merci. J'étais jeune, j'avais 19 ans, et en fait, ce film, il a eu assez peu de succès public à l'époque, mais finalement, il est
déjà
resté...
Déjà trioliste, hein, le film.
C'est
déjà
vrai,
du triolisme.
C'est vrai. Mais finalement, il est resté assez culte. Je me souviens qu'une fois, je me baladais dans une rue à Taïwan, dans un marché, et il y avait un vendeur... un étal comme ça de DVD culte, et il y avait une affiche, l'affiche censurée de Goutte d'eau sur pierre brûlante devant moi, et j'en revenais pas que le film ait pu voyager à ce point-là.
L'affiche, vous étiez, je crois, en soutien-gorge et en slip dessus,
oui.
Donc l'affiche censurée, vous aviez quoi ?
En fait, l'affiche censurée, c'était la même photo, mais au-dessus, il y avait 4 vignettes avec des postérieurs qui étaient censés représenter les personnages.
Ah oui, c'était de moins bon goût.
Oh, c'est rigolo à retrouver au fond d'un carton, quoi.
On continue notre balade avec Ludivine Sagné. On se retrouve juste après les infos.
Europe 1, en balade avec Ludivine Sagné. Frédéric Tadéhi.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Ludivine Sagnier, qui est à l'affiche de La Vérité, avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche. Ludivine Sagnier nous promène dans son quartier, dans le 11e arrondissement, le Paris révolutionnaire. Nous sommes de retour dans la rue Saint-Maur. Et puisqu'on parlait de François Ozon, dont vous avez été l'égérie, vous avez fait 3 films ensemble, Ludivine Sagnier, il paraît que 8 femmes, qui est le film qui va vous révéler auprès du grand public, il faut dire que c'est un énorme succès, c'est le plus gros succès de Catherine Deneuve d'ailleurs en salle.
Ah bon ?
Ouais, 8 okay. femmes, et c'est sans doute le vôtre aussi. Alors.
Certainement.
Et vous n'étiez pas prévu au casting ? C'est parce que l'actrice qui avait été engagée est tombée enceinte que vous avez eu le rôle. Est-ce que vous lui avez,
ouais.
est-ce que vous lui avez pas volé sa carrière ?
Ah mais c'est une obsession chez vous.
Bah, non, c'est, en fait, c'est dans La Vérité, le film avec Deneuve dans lequel vous jouez.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai que c'est important dans ce film.
Disons que c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait j'étais prévue au casting dès le départ, que François Ozon a souhaité quand même que je fasse des essais, et qu'en fait j'ai complètement raté mes essais. Et que donc, il a choisi de prendre...
Pour vous punir.
Pour me punir, il a choisi de prendre une autre actrice, alors que moi, je faisais un stage AFDAS de chant pour pouvoir être...
Oui, puisque donc, vous chantiez toutes une chanson, voilà. Chacune une chanson.
Donc en fait, j'ai eu l'herbe coupée sous le pied. Pendant le stage, j'ai appris que je n'allais pas faire ce film. Il m'a remplacée.
Ça doit être dur, hein, ça.
Ouais, j'ai un petit souvenir. Ouais. Et ensuite, il m'a appelé une semaine avant le tournage en me disant « il faut que... » Rends-moi un service.
Reviens.
Voilà, et donc je suis revenue. C'est là, on est juste devant le servant.
Le servant, en face de l'Express Bar, à la façade de bien connue, avec ses carreaux de céramique cassés, rouge et noir.
On adore ce genre de bar.
Dans un vieil album de Spirou.
Complètement, ouais.
Et le servant, c'est juste.
Alors, le servant, c'est là, en fait, on est entre la rue du Chemin Vert et la rue Saint-Maur. C'est un restaurant que j'aime beaucoup. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y a très peu de restaurants français, finalement, qu'il y a beaucoup de...
Il y en a moins que de restaurants étrangers dans Paris, paraît-il.
Voilà. Et là, on est quand même dans un bistrot un peu traditionnel. Vous voulez venir voir la carte ?
Oui.
Et ce que j'aime, c'est que ces deux sœurs, Tatiana et Katia, qui sont d'origine philippine et qui ont apporté, qui en fait... saupoudre de culture asiatique,
voilà,
leur cuisine française, quoi. Et ça fait des alliages vraiment détonnants, c'est délicieux.
Oui, elles ont été recommandées chaudement à plusieurs reprises dans le guide du fooding.
Ah, certainement, ouais, ça m'étonne pas.
Et vous avez vos habitudes là aussi ?
Oui. Et en fait, le mari de Tatiana, c'est Bertrand Grébeau, qui est le chef du Septime, le restaurant. Rue de Charonne.
Il est très à la mode depuis quelques temps. Il est très difficile d'y avoir une table.
Oui, parce que c'est vrai qu'ils sont assaillis de
et c'est ce restaurant qui a eu la bonne idée de s'appeler comme le restaurant de Louis de Funès dans Le Grand Restaurant.
Effectivement. Et donc, eux, ils sont vraiment là. On est plutôt sur de la gastronomie, etc. Et Tatiana, c'est une carte qui est plus accessible, déjà financièrement. Et puis, elle a ouvert un autre restaurant qui s'appelle Double Dragon, qui est là exclusivement asiatique.
Eh bien, on va entrer.
Allez.
Frédéric Taddeï, en balade avec Ludivine Sagnier sur Europe 1.
Nous sommes donc au Servant, 32 rue Saint-Maur, bistrot gourmand, cuisine du terroir avec des influences asiatiques. Nous sommes avec Ludivine Sagnier. Les deux propriétaires du restaurant ne sont pas encore arrivés. On va voir si elles nous rejoignent, si on les rencontre. Vous avez beaucoup manifesté avec les intermittents du spectacle, Ludivine Sagnier. Vous avez manifesté contre Le Pen lors de l'élection présidentielle de 2002.
Mm-hmm.
Vous êtes une manifestante depuis toujours ou c'est l'occasion qui faisait la larronne ?
Non, en fait, quand j'étais jeune, peut-être je me suis un peu assagie, mais c'est vrai que j'avais des élans... De révolte. Enfin là, bon, le Pen, c'était quand même la moindre des choses. Et les intermittents, c'était pendant les années où notre statut était vraiment précaire. Donc, où il y avait un ministre qui nous protégeait pas assez. Donc c'est vrai qu'on avait besoin de crier. Maintenant, je peux pas dire que je me suis embourgeoisée, mais en tout cas, mes aspirations... à la révolte sont moins explosives.
Vous n'avez pas manifesté pour votre retraite, par exemple?
Non, non. Je ne manifeste pas pour ma retraite, mais ça n'enlève rien à mon mécontentement.
La vérité, le film dans lequel on vous voit montre quel point on n'arrête jamais sa carrière dans ce métier.
C'est vrai que pour moi, la retraite, c'est pas quelque chose d'envisageable, en fait. Ouais. Je trouve que justement, on a, surtout quand on est habitué à une actrice, enfin un acteur, qu'on l'a vu vieillir, qu'on l'a vu devenir quasiment un adulte et ensuite vieillir. On aime le retrouver. Daniel Darieux, c'était toujours un.
En plus, c'est une chance qu'on a dans le cinéma français, c'est qu'en tant qu'actrice, on peut vieillir dans le cinéma français et continuer de travailler. Aux États-Unis, à 45 ans, c'est fini.
Oh, maintenant, avec le Botox, elle traîne un peu plus.
Robert Redford, je pense, est tenu dans les bras 4 générations d'actrices. Faye Dunaway, une seule génération d'hommes.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que c'est Meryl Streep qui racontait qu'elle s'était battue pour avoir le rôle de sur la route de Madison, alors qu'elle avait 40 ans et que Clint Eastwood en avait 65 ou 70 et que ça posait absolument pas de problème pour lui. Mais pour elle, il était question qu'on prenne une actrice de 30 ans, ce qui aurait été quand même...
Et un film que vous détestez par ailleurs, hein, sur la route du Madison.
Comment vous savez ça?
Bon, parce que c'est du cinéma américain de droite, ça.
Vous me connaissez aussi bien. Alors, je dois vous confier quelque chose. Je ne suis pas une grande fan de Clint Eastwood.
Ah, c'est à cause de Clint Eastwood. Je pensais que c'était sur la route de Madison, mais généralement, qui était un des films préférés des femmes. Quand on
Moi, c'est le pire. Pour moi, c'est le pire. Je suis absolument pas sensible à ces mécanismes-là. Vraiment, c'est beaucoup trop sucré. C'est comme une corne de gazelle, en fait. On regrette toujours de l'avoir commencé parce qu'on sait qu'on va pas finir, on va pas la digérer.
Europe 1, 11h30, en balade avec Ludivine Sagné. Frédéric Tadéhi.
Côté révolte encore, il paraît qu'un soir à Matignon, quand Lionel Jospin était Premier ministre, vous lui avez reproché de ne pas dépénaliser le cannabis.
C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il m'a dit, mais si vous voulez, en tout cas, Ludivine, vous pouvez rouler un joint ici, il n'y a aucun problème. Et là, je me souviens, François Ozon m'a dit « Sors quelque chose !» Et j'ai dit « Mais enfin, je ne suis pas venue à Matignon avec du shit dans la poche. » J'avais rien, évidemment que j'avais rien. Je n'avais pas envoyé un dealer. À cette époque-là, il n'y avait pas les Glovo. Mais sinon, je me serais fait un plaisir d'allumer un joint à Matignon.
Vous avez remarqué qu'on est presque 20 ans plus tard et rien n'a bougé. Énormément de pays ont dépénalisé, toujours pas la France.
Bon, on est quand même sur des tentatives expérimentales de cannabis thérapeutique.
Oui.
Et moi, j'ai testé le cannabis californien micro-dosé, en fait, dans des cigarettes électroniques. Pas celles qui provoquent des infections pulmonaires terribles. Mais en tout cas, il y a une vraie avancée dans la consommation du cannabis de manière plus raisonnable, mieux dosée, meilleure pour la santé, qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que le cannabis a de beaux jours devant lui. Mais pas comme une drogue... Pas comme une drogue sale, comme vraiment une alternative aux anxiolytiques, etc. Je trouve que c'est une drogue qui bien utilisée, peut être bienfaisante.
Mais la grande question que je me posais, c'est est-ce que vous êtes toujours de gauche ?
Est-ce que je suis toujours de gauche ?
Oui.
Mais moi, j'ai une question à vous reposer. Où est la gauche, s'il vous plaît ?
Je ne sais pas. Vous auriez pu trouver, ça dépend quelle gauche vous êtes.
Moi, je suis Taubira, moi.
Ah oui.
Voilà, s'il y a une personne politique qui m'inspire depuis quelques années et encore aujourd'hui, c'est Christiane Taubira. Parce que c'est encore... en fait, moi, j'ai grandi dans les années 80 et j'ai grandi donc en voyant, comment dire, en entendant la culture, la précision de François Mitterrand. Ses références littéraires, poétiques, etc. Et en fait, ça m'impressionnait que les hommes politiques soient aussi cultivés et ancrés dans le réel des gens, non pas par les propositions qu'ils faisaient, mais par leur connaissance de l'intime et leur connaissance des lettres. Et je trouve que Christiane Taubira, c'est la seule qui garde cette tradition-là chez les politiques. On ne verra pas Macron citer Aimé Césaire ou...
Oh, si. Pas sûr. Si, si, je crois que là, vous vous trompez peut-être.
Alors peut-être.
Mais ça ne fait rien. En hommage à ce quartier révolutionnaire dans lequel vous habitez, puisque Dieu sait s'il a été révolutionnaire, et à vos révoltes, on va écouter la chanson de Georges Moustaki et Kali, sans la nommer.
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil.
C'est alors que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est alors qui se soulève, qui souffrait se met en grève. C'est alors qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre. Jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Je voudrais sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai, ou fruit sauvage.
Une plante bien plantée sur ses deux jambes, et qui traîne en liberté où bon lui semble.
C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en rêve. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en œuvre. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque,
que l'on poursuit, que l'on traque.
C'est elle qui se soulève,
qui souffre et se met en grève.
C'est elle qu'on emprisonne,
qu'on trahit, qu'on abandonne.
Qui nous donne envie de vivre,
qui donne envie de la suivre.
Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
C'était sans la nommer, interprété par Georges Moustaki et Kali. Qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, il faut bien reconnaître que les chansons de gauche sont quand même plus jolies que les chansons de droite.
Alors, quelles sont les chansons de droite, Michel
les
Sardou?
De droite, je crois que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tellement. Mais, mais les chansons de gauche sont toujours belles. Même si on n'est pas de gauche, je crois, je pense que ça émeut l'international, ça fait pleurer.
Mais bien sûr, bien sûr. Una mattina. Messos Vegliato, bella ciao, bella ciao.
Nous sommes toujours au Servant avec Ludivine Sagné. Ludivine, La Vérité, film à l'affiche duquel vous êtes avec Catherine Deneuve, Ethan Hawke et Juliette Binoche. C'est un film sur le cinéma. Ils ne sont pas si nombreux que ça, les films sur le cinéma. On se souvient tous de Sunset Boulevard. Il y a 15 jours ailleurs. Il y a La Nuit américaine, évidemment. Ça tourne à Manhattan. Il y a La Petite Lily.
La petite Lily, effectivement.
Dans lequel vous jouiez, mm-hmm. Film de Claude Miller.
Il y a un film que j'aime beaucoup sur le cinéma, qui est un film de Fassbinder, qui est Dommage qu'elle soit une putain.
Ouais,
qui est avec Eddie Constantine, qui est un chaos total. Tout le monde est défoncé sur le plateau et ça part en vrille.
Ça doit toujours être un petit peu gênant, peut-être, pour les gens de cinéma, de faire des films sur le cinéma.
Bon, vous savez, non, parce que les fabricants de cinéma ne sont pas les moins narcissiques. Hein.
Non, mais en même temps, regardez par exemple, il y a un truc commun à presque tous les films sur le cinéma, c'est que ça se passe sur un tournage de film et que le film est presque toujours, on a l'impression, un navet. Vous avez remarqué, c'est vrai dans la vérité comme dans la nuit américaine.
C'est vrai qu'on n'est jamais très. Ah, moi j'ai le souvenir. Je me demande si Irma Vep, c'était pas mal.
Gassayas.
Ouais. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on veut surtout pas. On veut surtout pas que le sujet fasse de l'ombre
au vrai film.
Au vrai film.
Oui, c'est peut-être sans doute ça. Ouais. Oui, c'est une bonne explication. Pas que vous faites beaucoup la sieste sur les tournages, vous.
Comment vous savez ça?
Ça se sait. Il paraît qu'entre deux prises, on vous retrouve écroulé dans la cabine.
J'adore. J'ai une passion pour le sommeil.
Ouais. Même sur les tournages.
Oui, c'est une source de d'énergie en fait. Moi, je suis capable de dormir 10 minutes assise. En fait, j'ai toujours privilégié ma gestion du sommeil parce que je pense que c'est une arme. Une arme de protection, une arme de contre beaucoup de choses. Et donc c'est vrai que dès que je peux dormir, maintenant en fait c'est plus pour rafraîchir la peau. En vieillissant, je me rends compte que ça aide beaucoup.
Vous n'êtes pas si vieille, vous avez 40 ans.
Ouais.
Charles Péguy disait à 40 ans on devient ce que l'on est. Est-ce que êtes devenu ce que vous êtes?
Je crois bien. Je crois bien. En tout cas, il y a une espèce d'alignement de planète à 40 ans, ouais.
À propos d'armes de protection, je me souviens de vous montant les escaliers à Cannes pour la petite Lily.
C'était la première année.
Vous étiez magnifique. Merci. Et puis vous êtes entrée dans la salle et vous vous êtes cassée la figure lamentablement.
Ouais, alors c'était
devant tout le monde. Est-ce alors que ça n'était pas une arme de protection, ça?
c'était la même année que c'était pour Swimming Pool où je me suis cassée la gueule, mais c'était à 2 jours d'intervalle. Et en fait, j'étais allée faire un plateau et, en direct. Et donc, je suis revenue dans la salle discrètement. Sauf que je me suis étalée sur mes talons de 12. Et heureusement, je suis tombée sur Édouard Baird qui m'a relevée et qui m'a aidée, qui m'a escortée jusqu'à mon siège. Mais on ne pouvait pas le voir parce que c'était dans l'obscurité, mais j'étais rouge de honte. C'est des bons souvenirs en même temps.
Oui, bah c'est bien.
Il vaut mieux se casser la gueule en descendant le palais du festival que qu'en le montant.
Qu'en montant les marches.
Ouais.
En même temps, comme on cherche toujours à créer une sensation quand on monte les marches, je crois que personne ne s'est jamais vraiment cassé la gueule. Ce serait peut-être une première.
Ça pourrait être pas mal. Cela dit, je ne serais pas la pionnière.
Vous voyez, quand vous aviez 12-13 ans, vous auriez été capable de faire ça.
Mais quand j'avais 12-13 ans, je trouvais ça... Je méprisais le Festival de Cannes.
Oui.
Et les paillettes. Je trouvais ça absolument vain. Comment dire, loin de mes aspirations, ça ne m'intéressait pas, ça ne provoquait aucune émotion.
Et puis en grandissant ou en vieillissant, non, en fait, on s'aperçoit qu'en fait ça fait partie du métier quand même.
D'une part, et en fait cette année-là, 2002, où j'avais 2 films en compétition, quand j'ai foulé ce tapis rouge désormais familier, mais à ce moment-là il l'était pas, en fait j'étais saisie par une émotion que je connaissais pas, et du coup j'ai changé d'avis. À ce moment-là, à 22 ans, je me suis dit finalement, un tapis rouge, c'est pas si mal.
Si vous étiez invisible, vous feriez quoi?
C'est une bonne question. Je pense que je ferais pas mal de blagues à mes copains.
Ah, rien de plus grave.
Non, je me verrais. Voilà, je serais un lutin rigolo.
Toujours ce lutin.
Je serais un esprit, ouais. Je serais un petit esprit malin.
C'est un bon test, l'invisibilité de sa propre moralité. Parce que très souvent, oui. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'on a peur de la police. Mais si on était invisible, on n'aurait plus peur de la police. Alors là, c'est tout vrai. À coup, on se rend compte de quoi on est capable.
Ouais, je le considère pas comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire que je ne peux pas faire? Prendre les couloirs de bus sans me faire arrêter. Parce que ça m'arrive souvent. Je sais pas, je suis pas trop dans l'illégalité.
Ouais, visiblement. Et quand vous étiez très jeune, vous avez souvent dit que vous étiez un garçon manqué. Et si vous étiez un homme, pendant 24 heures, vous pouviez être un homme, vous feriez quoi? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire en tant qu'homme?
Alors, vous savez que j'ai fait une série qui est maintenant disponible sur YouTube qui s'appelle Kings, dans laquelle, je me suis déguisée en homme avec deux complices. Deux actrices, il y avait Cécile de France et Mika Attar qui étaient à l'initiative de ce projet. Et en fait, on a passé, je sais plus, 8 heures dans la peau d'un homme. Et on a même poussé le bouchon jusqu'à aller à Cannes déguisé en homme et monter les marches en costard avec Cécile de France. La veille, on les avait montés pour l'anniversaire du festival. On était en robe longue, maquillée, coiffée.
Vous a pas reconnu quand vous l'avez remonté en homme?
Non. Pas du tout, on nous a...
Franchement, si vous êtes dans la peau d'un homme, si le seul truc que vous trouvez marrant à faire, c'est de monter les marches du festival de Cannes.
Non, non, on a fait d'autres trucs. On a fait d'autres trucs. Il faut regarder la série. Et ben, en tout cas, ça faisait partie de nos enjeux. C'était être crédible jusqu'à monter les marches.
Oui, c'est un
alors
bon
qu'on
test.
Est deux actrices quand même familières du festival. Et tout d'un coup, de les monter incognito, en chaussures plates, les mains dans les poches, c'était un vrai délice.
Bon, c'est déjà pas mal alors.
Ouais, c'est déjà pas mal.
Merci Ludivine Sagnier de nous avoir emmenés en balade avec vous. Je rappelle que La Vérité, le film de Koreeda Hirokazu avec Catherine Deneuve, sort en salle le 25 décembre. On va remercier tous ceux qui nous ont si gentiment accueillis. Alors vous allez redire leur nom.
Alors il y a Tatiana et Katia du Servant, le restaurant du 32 rue Saint-Maur. Ensuite il y a
L'Arrosoir.
Il y a L'Arrosoir, Alain et Christine Bousquet. Il y a Valerio du Nouveau-Né.
Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, un très joyeux Noël. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h pour une autre balade.